Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Léa Mormin-Chova, Caroline Bonin, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Fabien Laléouze. Toute cette semaine, dans Culture Monde, nous plongeons dans les entrailles de la Terre, ce territoire invisible qui existe pourtant bel et bien, faisant office de cachette, de protection, pouvant abriter des ressources convoitées ou des régions citadines, abritant des infrastructures utiles au fonctionnement des villes. Mardi, nous irons justement du côté des villes souterraines. Mercredi, on s'intéressera aux ressources minières. Jeudi, enfin, nous parlerons de l'imaginaire des souterrains qui fait l'objet d'un certain nombre de productions cinématographiques et littéraires. Mais aujourd'hui, nous parlons conflits, de la guerre du Vietnam, Mossoul, en passant par l'Afghanistan, la bande de Gaza ou encore la Syrie. L'utilisation de tunnels et autres souterrains est souvent l'arme du faible et a permis parfois de rééquilibrer le rapport de force dans des situations de guerre asymétrique, de Hanoï à Mossoul, quand la guerre se fait souterraine.
Un jour, la 25e division de l'aviation américaine est arrivée à Cu Chi, au Vietnam, et a commencé à bombarder la ville sans interruption. C'est ainsi que nous avons commencé à creuser des tunnels pour y vivre.
Tout le monde sait que ce sont les tunnels ici sous Gaza qui ont permis à notre situation à nous Gazaouis de s'améliorer. Aujourd'hui, nous avons accès à tout ce que nous avons besoin et c'est grâce à Dieu, mais aussi grâce au travail difficile de ceux qui sont dans les tunnels. Israël cherche encore et toujours à découvrir l'emplacement en prétextant que des armes y seraient cachées, mais c'est faux.
Ici, c'est le tunnel que Daesh utilisait. Il est connecté à toutes les maisons du village qui se trouvent au-dessus. Regardez tous les sacs de sable empilés là.
Mossoul, en Irak, mais aussi Gaza ou encore le Vietnam. Dans la période contemporaine, c'est probablement au Vietnam que la guerre des tunnels a sans doute trouvé son expression la plus élaborée, notamment dans la région de Cu Chi, au nord-ouest de Saigon, où avaient été creusés près de 300 km de souterrains, hébergeant plusieurs milliers de combattants, réussissant par cette stratégie à mettre en échec l'armée américaine, et ce, malgré son avantage logistique et technologique. Sur un tout autre territoire, c'est au tour de la résistance afghane de mettre en difficulté l'armée soviétique, notamment par l'usage des carrés, ces petits tunnels de systèmes d'irrigation, ou encore grâce aux grottes des régions montagneuses qui permettaient aux combattants de surgir de façon inattendue et de disparaître aussi vite. En 2001, l'armée américaine fut confrontée exactement aux mêmes difficultés. On se souvient bien sûr de cette montagne de Tora Bora, refuge d'Al-Qaïda et de son chef Oussama Ben Laden qui fut le théâtre de nombreux combats. Aujourd'hui, c'est dans les environs de Mossoul que l'on retrouve ces mêmes tunnels qui sont au cœur de la stratégie de Daesh. Lors de la libération de la ville yézidite Sinjar, plus de 70 tunnels avaient été découverts, une stratégie qui ralentit d'ailleurs considérablement en ce moment même l'avancée des forces libératrices sur Mossoul. Alors comment expliquer l'efficacité de cette stratégie? Quel avantage offre-t-elle face aux armées régulières? Comment cette technique des tunnels s'est-elle propagée, transmise depuis la moitié du XXe siècle à aujourd'hui, et plus précisément dans quelles conditions se développent ces infrastructures, quels sont les différents types de souterrains et quels en sont leurs usages. Voilà les questions qui seront les nôtres ce matin. Pour les aborder, deux invités avec nous ici en plateau. D'abord Jean-Pierre Perrin, bonjour Jean-Pierre Perrin.
Bonjour Florian,
merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez l'habitude, on vous a entendu très régulièrement à cette antenne. Vous êtes journaliste, ancien grand reporter au journal Libération, mais également romancier, auteur de cet ouvrage « La mort est ma servante », on en parlera.
C'est pas un roman, hein.
C'est pas un roman celui-ci, mais vous en avez écrit aussi.
Oui, absolument.
Et puis dernier ouvrage en date aussi, Le djihad contre le rêve d'Alexandre. Quatrième de couverture, Jean-Pierre Perrin, si la défaite actuelle des armées occidentales en Afghanistan renvoie aux échecs des envahisseurs précédents, elle met également en pièce le rêve eurasien d'Alexandre le Grand. Quel était le rêve eurasien d'Alexandre?
Fera une fusion entre l'Orient et l'Occident, évidemment sous sa gouvernance, mais il a eu vraiment ce rêve. Ce n'était pas sa seule motivation. Hein. Il avait un désir du monde extrêmement vaste, mais en même temps, il y a des signes très significatifs lorsqu'il découvre le le corps, par le cadavre du Darius III, son ennemi, mais qui avait été tué par un de ses satrapes, eh bien, il prend sa tunique et il recouvre le corps de son ancien ennemi, marquant par là que la nouvelle Occident recouvre avec beaucoup de pudeur le vieil Orient. Et c'est une image très poétique, très belle. Mais évidemment, ça ne meurt pas toutes les massacres qu'Alexandre a pu commettre. Hein. Il y en a un certain nombre, mais il y avait chez lui une... Et puis, il est à l'origine de l'art du Gandhara, cet art de la fusion entre l'Orient et l'Occident, la rencontre entre la statuaire grecque, avec des sculpteurs grecs, et le bouddhisme, qui a donné cet art du Gandhara et qui est absolument unique. Hein. Dans la synthèse, c'était notamment les grands bouddhas de Bamiyan qui ont été fracassés par les talibans.
En face de vous, Jérôme Triolet, bonjour.
Bonjour.
Co-auteur avec Laurent Triolet de La guerre souterraine qui est paru chez Perrin en 2011. Vous êtes intéressé, vous, depuis longtemps à cette question des souterrains, des tunnels. C'est un sujet auquel vous êtes intéressé, je dirais, dans un premier temps en amateur. Hein. Vous êtes ingénieur chimiste de formation, mais de façon assez poussée, hein, puisque aujourd'hui vous donnez des conférences, vous écrivez des livres, justement, La guerre souterraine, sous terre, on se bat aussi. Qu'est-ce qui a conduit un ingénieur chimiste à se passionner pour les souterrains?
Ah, c'est une question qu'on me pose souvent. Je crois qu'on a eu la chance avec mon frère de naître en Touraine. Et dans l'ouest de la France, notamment en Touraine, il existe des petits souterrains, qu'on appelle des souterrains refuges, creusés au Moyen-Âge dans les campagnes pour assurer l'autoprotection, j'allais dire, des paysans qui vivaient là à l'époque et qui sont organisés de façon extrêmement efficace et militaire avec des pièges, des meurtrières. Donc c'est un ensemble de couloirs qui mènent à des salles dans lesquelles on pouvait s'abriter et se défendre en cas de raid ennemi, de passage de maraudeurs.
Et vous avez découvert progressivement qu'en fait, il existait des souterrains refuges comme cela un peu partout dans le monde, en réalité.
Oui, puisque ces souterrains ne faisaient pas l'objet, je dirais, de consensus sur leur utilisation. Et donc, on a essayé de comparer, de voir ce qui se faisait ailleurs. Et on en a trouvé, bien entendu, on n'était pas les seuls à travailler sur le sujet, mais on en a trouvé ailleurs en Europe, mais aussi en Turquie, en Cappadoce, et plus, de façon plus moderne, au Vietnam.
Et oui, et on en trouve aussi l'actualité, bien sûr, malheureusement, nous permet aussi d'étudier cette question des souterrains, puisque depuis octobre dernier, on a cet assaut qui a été lancé contre Mossoul, deuxième ville d'Irak, tombée sous les mains de Daesh en 2014. La partie ouest de la ville a été libérée, reste encore la partie est, avec la vieille ville faite de petites ruelles qui ralentissent grandement cette progression. Et ce qu'on a découvert à Mossoul, ce sont, ben voilà, là aussi, des tunnels creusés par l'occupant pendant des mois. Il y a des centaines de kilomètres, visiblement, de couloirs, de salles souterraines, d'ateliers de confection de bombes, des salles servant d'infirmerie. On a même retrouvé un centre d'entraînement à côté de l'aéroport de Mossoul, des salles de réunion, des chambres. On le voit très bien, dans le cas de Mossoul, encore aujourd'hui, la guerre se joue en grande partie sous terre.
Oui, c'est assez logique, parce que c'est le seul espace qui échappe aujourd'hui à la suprématie des armées occidentales. On voit tout, les armées occidentales voient tout, ce qui se passe en surface, tout ce qui se passe dans l'air, sur la mer, peut-être même sous les mers, mais sous terre, pour l'instant, ils ne voient pas encore tout.
Il n'y a pas
tout.
De technologie qui permet.
Les technologies ne le permettent pas, et c'est le seul espace où on peut, j'allais dire, diminuer la puissance de l'assaillant et l'obliger à se battre dans un lieu qui n'est pas le sien et presque d'homme à homme.
Jean-Pierre Perrin, vous avez eu l'occasion, vous, dans vos différents périples, évidemment, de voir ces différents tunnels. On parlera tout à l'heure de Homs, où évidemment vous avez eu une expérience un peu difficile, mais on reviendra dessus. Mais je pense aussi à l'Afghanistan, parce qu'en son temps aussi, l'ancien chef d'Al-Qaïda, Osama Ben Laden, avait beaucoup utilisé les profondeurs de la terre, notamment dans ces grottes de Tora Bora. Alors d'ailleurs, on imaginait des choses assez incroyables, c'est-à-dire des bases extrêmement sophistiquées, avec des systèmes d'aération, d'éclairage. On avait même imaginé un hôpital avec des machines extrêmement modernes. C'était un peu... La réalité était un peu différente. Hein,
oui, alors, il y a deux types quand même d'installations qui ont été mises en place par Ben Laden, dont on peut rappeler que le père était un grand entrepreneur de travaux publics, l'un des principaux du royaume saoudien. Donc, il y a Tora Bora, où c'était plutôt des galeries destinées à servir de refuge. Et puis quand même, il y a la base Djaji. Djaji, c'est juste à côté de la frontière pakistanaise, dans la province, je crois, Paktia, ou une province limitrophe du moins de la frontière pakistanaise. Et à Djaji, eh bien, il y a un grand chef qui à l'époque de l'invasion soviétique était un allié des Américains, du Pakistan et de la CIA, qui s'appelle Jalaluddin Haqqani. Et pour Jalaluddin Haqqani, il avait fait
une forteresse souterraine que j'ai visitée dans les années 80. Et là, effectivement, il y avait toutes ces salles pouvant servir d'hôpitaux. Il y avait des abris même pour les quelques chars qu'il avait capturés à l'armée afghane. Et c'était absolument... c'était une montagne truffée de galeries. Et alors, je crois que quand je l'ai visité, les Soviétiques l'avaient déjà bombardé une trentaine de fois, mais sans grand résultat. Puis, au bout d'un moment, ils réussiront quand même à blesser Jalaluddin Haqqani, mais qui survivra. Et Jalaluddin Haqqani est d'ailleurs toujours en service, mais il a changé de camp. Il est,
avec un clan encore très puissant.
Bien sûr, le réseau Haqqani est une terreur absolue en Afghanistan.
Jérôme Triolet, c'est à ce moment-là, au moment de l'invasion soviétique, qu'apparaissent ces tunnels et qu'on les utilise finalement comme système de défense, comme refuge?
Oui, en Afghanistan, semble-t-il, les premières mentions de tunnels, je dirais de proto-tunnels, d'embryons de tunnels, c'est dès 1980. Dès 1980, et assez vite, visiblement, les Américains qui cherchaient à faire de l'Afghanistan le Vietnam des Soviétiques vont aider, notamment par leur argent, les résistants afghans à construire des bases souterraines qui profitent des hautes montagnes, qui profitent déjà de l'abri naturel constitué aux hautes montagnes, pour servir de... Alors c'est essentiellement la frontière pakistanaise, à proximité de la frontière pakistanaise, pour servir de relais et de base à l'intérieur même du pays.
Et comment les Russes et puis ensuite les Américains s'y prennent pour neutraliser ces tunnels? Je crois qu'il y a des techniques qui vont être développées.
Oui, ils développent bien entendu des techniques, alors des techniques particulières.
Des procédures un peu standards en réalité,
oui,
que les Américains ont récupérées ensuite.
Oui, alors pour les Carrés notamment, les Soviétiques avaient développé des procédures assez efficaces pour neutraliser un tronçon de Carrés entre deux puits. Par contre, face à ces installations creusées comme Tora Bora ou Zawar ou Chaïkot plus tard... ils sont assez démunis, dans la mesure où ces installations sont extrêmement robustes, qu'on ne peut pas de la surface savoir qui elles abritent exactement, la quantité d'hommes, la façon dont c'est défendu. Et donc, les Soviétiques vont s'attaquer à Zawar deux fois en 85 et 86 pour réussir à conquérir la zone pendant 4 heures ou 5 heures. Bien sûr, ils n'ont pas le temps de la détruire, parce que des installations creusées dans la roche, c'est d'une solidité extrême, et donc leurs sapeurs n'ont pas le temps de détruire l'installation. Ils sont obligés de quitter sous la pression de renfort qui arrive du Pakistan. Quant aux Américains, Tora Bora, ils engagent des effectifs qui sont pas suffisants de toute façon pour boucler la zone et une partie des combattants fuit. Et plus tard, ils se trouvent vraiment en grande difficulté à Chaïkot, donc ça c'est un an plus tard, c'est en 2002, où là, ayant estimé la force d'Al-Qaïda depuis le ciel à partir des quelques bâtiments qu'il y avait dans la vallée, et considérant que dans des zones de haute montagne, comme ça on ne pouvait pas vivre en haute montagne, ils montent une opération où les troupes occidentales doivent boucler la vallée à mi-hauteur des montagnes, et les troupes afghanes ratissaient la vallée en les repoussant vers ceux qui les attendaient. Et malheureusement, les troupes occidentales sont posées en dessous des positions d'Al-Qaïda, qui sont elles creusées dans la montagne, beaucoup plus haut qu'on les imaginait, et alors que le combat devait se livrer à 10 contre 1, il se livre à 2 contre 1.
Quels sont finalement, Jean-Pierre Perrin, les types de conflits dans lesquels on utilise des tunnels? Pour le dire autrement, est-ce que l'utilisation de tunnels révèle à votre sens une nature particulière des conflits?
Oh, sans doute, oui, sans doute. Tout mouvement insurrectionnel, enfin, pas tous, mais une grande partie des mouvements insurrectionnels utilisent les tunnels. Le Hezbollah, par exemple. Le Hezbollah, en 2006, à la grande surprise de l'armée israélienne, les tunnels du Hezbollah ont été très, très efficaces lorsqu'il y a eu cette guerre, lors de l'avancée des troupes israéliennes sur le sol libanais. Eh bien, les tankistes ont vu apparaître dans leur dos des combattants du Hezbollah qui étaient simplement passer par les tunnels pour aboutir derrière eux. Et ça explique en grande partie les difficultés qu'a pu avoir l'armée israélienne sur le terrain libanais. Ensuite, après, on a trouvé la technique du Hezbollah réutilisée par les rebelles syriens, notamment dans les combats qui se sont passés près de la frontière libanaise. Eh bien, le Hezbollah a découvert qu'il n'était pas le seul à utiliser des tunnels. Là, en l'occurrence, il était une force d'occupation. Il travaillait avec l'armée de Bachar el-Assad. Et les rebelles se trouvaient dans la position du Hezbollah. Et donc, ils ont utilisé les mêmes techniques. Vous voyez, c'est cette sorte de vase communicant, finalement.
Puisque vous parlez de la Syrie, Jean-Pierre Perrin, attardons-nous peut-être un tout petit peu sur ce point. Votre livre, La mort est ma servante, est un texte qui est dédié à un ami à vous, journaliste intellectuel, qui a été assassiné il y a une dizaine d'années, en 2005, dans un attentat à la voiture piégée à Beyrouth, alors que vous aviez, vous et lui, rendez-vous dans un café, Samir Kassir. Samir Kassir avait la conviction que la démocratie dans le monde arabe devait passer par un printemps à Damas. C'est vrai que 5 ans après le soulèvement, évidemment, ces rêves de démocratie semblent assez lointains. L'un des chapitres de votre livre, Jean-Pierre Perrin, est intitulé « Le tunnel », justement. On est en 2012, on est à Homs, on est au cœur de la rébellion dans ce quartier de Bab Hammer. Une étroite canalisation souterraine constitue l'unique point de passage pour rentrer dans ce quartier-là, qui est totalement assiégé par l'armée nationale. Elle permet aux habitants de ne pas être totalement coupés du reste, pas être totalement asphyxiés. On y fait transiter un peu de matériel, on y fait transiter des médicaments et on y fait aussi transiter des journalistes, puisque vous êtes passé justement par ce tunnel. Racontez-nous un peu cette expérience, parce qu'il faut évidemment rappeler une chose, c'est que c'est... À ce même moment, vous croisez le chemin de Mary Colvin, la
journaliste. Nous sommes ensemble. Oui, on part ensemble.
Cette fameuse journaliste du Sunday Times, qui est une légende du journalisme, notamment connue pour tous ses travaux en zone de guerre, et puis aussi peut-être par ce fameux bandeau qui cachait cet œil qu'elle avait perdu du côté du Sri Lanka. Et puis, elle va mourir à ce moment-là aussi. Rémi Oschlik également. Racontez-nous comment se passe cette séquence-là, vous arrivez quasiment à l'entrée de ce tunnel.
Oui, alors on découvre l'existence du tunnel par le plus grand des hasards. En fait, on cherche à entrer à Homs, on accompagne un groupe de combattants et dont le chef nous dit, mais il y a une seule façon d'entrer à l'intérieur de Homs, dans le quartier de Bab el-Amro, c'est par une canalisation. Et finalement, on dit, est-ce qu'on peut la prendre? Et il nous dit, bah, écoutez... Enfin, ça sera difficile, mais enfin, on va essayer. Et effectivement, une nuit, on s'engage depuis la banlieue de Homs dans la campagne syrienne jusqu'à aboutir à une canalisation qui a été creusée. Enfin, au départ, c'est un trou. Ils sont creusés pour arriver à cette canalisation. Ils ont fracturé la canalisation en béton, probablement. Et puis, on arrive à l'intérieur du trou, par l'entrée minuscule de cette canalisation, et on se retrouve...
C'est en pleine nuit.
C'est en pleine nuit, évidemment. Oui, c'est pas très loin de village, donc il faut faire le moins de bruit possible, il faut même en faire pas du tout. Et ensuite, on se trouve avec 3 kilomètres environ de canalisation à emprunter pour gagner le cœur de Homs. La grande surprise, Et en fait, j'étais absolument ravi qu'il y ait eu cette surprise, c'est qu'ils arrivaient à faire circuler, je ne sais pas comment, enfin, je sais, mais ça paraissait totalement invraisemblable, une minuscule moto à l'intérieur de la canalisation. Le chauffeur était couché complètement sur le guidon, et comme moi je suffoquais à l'intérieur de la canalisation et que j'étais en pleine détresse, en pleine déprime aussi.
Physiquement, vous étiez cassé de partout, vous aviez cette vieille hernie discale
absolument,
qui s'est réveillée.
Et donc la moto
vous empêchait d'avancer.
Voilà, la moto qui transportait derrière une petite remorque où on mettait quelques grenades, quelques munitions, quelques armes, eh bien m'a réussi à me prendre derrière lui, couché sur lui, et c'est comme ça qu'il m'a sorti de la canalisation, jusqu'à une échelle qui nous permettait de grimper et d'arriver à proximité du quartier de Bab el-Amro.
Il y a plusieurs choses qui vous posent problème à ce moment-là, si je puis dire. C'est évidemment ce mal de dos absolument terrible, mais c'est aussi toute la question de savoir qu'est-ce qui va se passer quand on va sortir de ce tunnel. C'est-à-dire que, est-ce que ce que vous redoutiez, Jean-Pierre Perrin, c'est que vous soyez accueilli par des soldats de l'armée de Bachar al-Assad, ou pire, peut-être qu'ils enflamment la canalisation comme ils l'avaient fait en 1982 du côté de Hama avec cette fameuse révolte populaire.
Non, mais c'est-à-dire que les fantasmes vont bon train quand on est confronté au noir absolu. En plus, j'avais pas de lumière pour m'éclairer, donc je suivais un collègue photographe, le compagnon de voyage de Mary Colvin, qui lui a été blessé, et donc au bout d'un moment, j'étant à la traîne, je ne voyais plus rien, et c'était dans une situation assez dramatique. Et donc effectivement, quand le traducteur m'a dit il y a une moto qui va venir vous chercher, je n'y croyais pas, mais c'est vrai. Je ne pensais même pas que ça puisse être, qu'on puisse imaginer ça dans un roman, cette petite moto au fond du souterrain, dans la conduite qui est ronde. Alors évidemment, il fallait surtout pas lever la tête, sinon on se faisait scalper, décapiter, mais c'était extraordinaire. Alors je voudrais juste ajouter un point, cette conduite, elle est à mon avis purement symbolique, parce que le peu de matériel qui pouvait l'emprunter, à la rigueur quelques blessés, c'est comme ça qu'ont été évacués les journalistes blessés, par exemple, mais très difficilement, là encore, mais c'était pas suffisant pour alimenter la ville. Et puis évidemment, elle naissait dans un champ, et donc le régime à tout moment pouvait, ce qui s'est passé à la fin, pouvait intervenir et la détruire. Ce qui s'est déjà passé
finalement, avec une autre conduite. Le calvaire qui vous est arrivé sur le le premier passage, finalement, a fait que vous ne l'avez pas utilisé, cette canalisation pour le chemin retour.
Si, si, absolument.
Vous l'avez utilisé.
Ah oui, oui, absolument.
Mais en même temps,
dans les mêmes conditions.
Dans les mêmes conditions.
Mais sauf que Mary Colvin est restée, elle, enfin, elle est sortie également avec moi, mais après, elle a voulu y retourner, et c'est là que le malheur a frappé.
Ce boyau est aussi la métaphore de la Syrie contemporaine, une version moderne du labyrinthe avec Hafez et Bachar al-Assad campant l'un et l'autre le rôle du Minotaure, car tout dans ce pays se passe de façon souterraine.
Oui, tout se passe de façon souterraine.
C'est vous que je cite.
Oui, oui. C'est toujours vrai d'ailleurs, c'est toujours vrai. Tout se passe toujours de façon souterraine.
Jérôme Triolet, on l'entend évidemment à travers le témoignage de Jean-Pierre Perrin. Il y a des choses qui semblent évidentes quant aux intérêts stratégiques, d'une certaine manière, de ces tunnels-là. Bon, on passe derrière les lignes ennemies, on peut éventuellement transporter du matériel. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qui vous semblent peut-être moins évidents, mais qu'il serait important de souligner ?
Mais je crois qu'il y a un avantage qui a été évoqué à l'instant, c'est que le monde souterrain est vécu comme hostile par la plupart des gens, et notamment la plupart des combattants également. Et donc, la sensation d'oppression, de claustrophobie que vous évoquez, elle touche également les combattants les plus aguerris. Alors, ceux qui sont réfugiés sous terre, ceux qui utilisent le tunnel, ont appris à domestiquer cette peur, à domestiquer cette claustrophobie, et l'utilisent, j'allais dire, contre ceux qui peuvent être tentés de venir dans le tunnel. Donc ça, clairement, on voit dans toute l'histoire, et même au Vietnam, par exemple...
On va en parler dans quelques instants.
On voit que c'est vraiment une des clés qui protège l'intervention ennemie dans le souterrain.
Oui, c'est-à-dire que c'est finalement un moyen de neutraliser l'avantage numérique et technique de l'adversaire.
Tout à fait. Alors en plus, l'étroitesse, monsieur a évoqué l'étroitesse tout à l'heure, donc on n'est jamais à l'aise dans ces souterrains, on est obligé de ramper, de se plier, il fait chaud, c'est oppressant,
on
respire mal. Donc le combattant qui a un gilet pare-balles, un casque, est obligé la plupart du temps de se dévêtir un peu, de se déséquiper, il voit rien ou il voit mal. Et dans les souterrains de l'Ouest dont je vous parlais tout à l'heure, dans des souterrains faits au Moyen-Âge, on a poussé, la provocation au niveau de la claustrophobie à l'extrême, puisqu'on rentre dans certaines salles par ce qu'on appelle des trous d'hommes ou des chatières qui font 35 cm de diamètre et qui ont été creusés volontairement à cette taille-là pour obliger la personne à ramper pendant un mètre dans un couloir extrêmement étroit. Vous arrivez donc la tête la première, les bras devant, dans une salle où vous ne voyez rien, bien sûr, et même un enfant avec un sabot vous empêche de rentrer. Quoi.
Remontons encore un petit peu dans le temps, direction le Vietnam.
Vers 2 heures, une équipe de rangers américains sont arrivés dans la forêt et ont attaqué. Quand l'attaque a commencé, j'étais encore en train de ronfler et les autres de la guérilla étaient encore dans le tunnel. Et puis les américains se sont mis à se tirer dessus. Moi, je tirais depuis un trou. Ils ne savaient pas d'où les tirs venaient. Ils tiraient partout. Ils se tiraient les uns sur les autres.
Voilà, le témoignage d'un ancien combattant Vietcong qui a vécu la guerre, bien sûr, et qui s'est réfugié, lui, dans ces tunnels de Cu Chi, cet immense système de tunnels souterrains situé dans cette région d'Ho Chi Minh, anciennement Saigon. On parle d'un réseau de plus de 250 kilomètres, presque 300 kilomètres, creusé lors de la guerre du Vietnam, même s'il préexistait visiblement, Jérôme Triolet, déjà des galeries avant cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est suffisamment récent pour avoir évidemment encore des témoignages de personnes qui ont vécu justement dans ces tunnels. Présentez-nous en quelques mots, Jérôme Triolet, ce réseau qui en réalité constituait là aussi une véritable base d'opération.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est une base d'opération qui a été constituée progressivement à partir de tunnels reliant des caves existantes, puis ensuite d'agrandissements, puis ensuite de tunnels de communication reliant des noyaux préexistants, pour faire finalement une véritable province souterraine. Alors l'intérêt de ce réseau, c'est qu'il permettait d'esquiver les attaques frontales américaines, donc de disparaître devant l'ennemi, de réapparaître éventuellement derrière lui, ou de le provoquer comme ce que décrit le Vietnamien à l'instant, en tirant un coup de feu puis en se cachant. Il permettait d'abriter des combattants. Et en réalité, il y avait une grande partie de ce réseau qui était quand même semi-enterré. Donc ça reliait des salles semi-enterrées où on essayait de vivre à l'abri de la forêt pendant un certain temps, quand la période était calme. Mais en période, je dirais, de conflit, on disparaissait. Et à ce moment-là, on pouvait faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres sous terre pour relier un point à un autre, échapper à une opération d'encerclement ou, par exemple, attaquer Saigon lors de l'offensive du Tet en janvier 68.
Alors, ce qu'on apprend dans votre ouvrage, Jérôme Triolet, c'est qu'en fait, ce sont les Chinois qui ont transmis leur savoir-faire en matière de tunnels, ce qu'ils appellent les Dia Dao. Tunnels de guerre, c'est ça que ça veut dire exactement, Dao. Et ça, ça remonte à la guerre sino-japonaise de 1937-1945.
Tout à fait, oui. Alors les premiers témoignages apparaissent à partir de 1942, dans la région autour de Pékin, 250-300 km autour de Pékin, où on a un certain nombre de témoignages de guérillas à grande échelle menés à partir de tunnels du même type que ceux qu'on voit aujourd'hui au Vietnam, et qui ont permis de mettre en grande difficulté les Japonais et de les empêcher finalement d'attaquer les villages et de rester dans les campagnes. Ça les a contraints à contrôler essentiellement les grands axes ou les lieux stratégiques. Alors ce qui est très intéressant, c'est que on connaît très bien la façon dont sont creusés ces souterrains parce que les Chinois ont jugé bon en 1965 de faire paraître un superbe film, un modèle de réalisme socialiste qui s'appelle Tunnel Warfare, où là on voit, mais alors vraiment de façon extrêmement...
Qu'on peut encore voir sur Internet, hein,
tout
j'en
à fait,
ai vu
oui.
des extraits.
À l'époque, il était, quand je l'avais trouvé la première fois, il n'était pas sur Internet, mais aujourd'hui il y est effectivement. Et alors là, de façon extrêmement pédagogique et didactique, on vous explique comment creuser un tunnel, pourquoi le creuser, comment l'agrandir, comment ne pas se limiter à un tunnel dans lequel on s'abrite de façon passive, parce qu'à ce moment-là, on va finir par être découvert par l'ennemi et noyé, enfumé, chassé ou tué. Donc il faut profiter de ce tunnel également pour pouvoir circuler et prendre l'ascendant sur l'ennemi par surprise. On voit ça très progressivement, alors avec des étapes de creusement, des étapes d'agrandissement, des briefings entre le chef de la milice, le chef du village. Et chose amusante, ça a même été produit en bande dessinée en 1973 avec une version anglaise, une version française. Et tout ça, nous pensons que c'était carrément un manuel à l'intention des paysans vietnamiens.
Il y a quand même des défis techniques colossaux. Je pense à la question de l'éclairage, à la question de l'aération, parce que c'est quand même des tunnels qui rentraient très loin dans la terre. Il y avait d'ailleurs plusieurs niveaux, jusqu'à 2-3 niveaux de tunnels qui communiquaient les uns avec les autres.
Oui, ce sont des défis techniques. Alors l'éclairage, il était de mauvaise qualité, l'aération également, il ne faut pas se faire d'idées.
Mais il y avait quand même des systèmes d'aération.
Oui, il y avait des systèmes d'aération, mais tous les témoignages qu'on a pu recueillir, les expériences qu'on connaît, montrent qu'au bout de quelques jours complètement enfermé sous terre ou caché sous terre, la situation devenait épouvantable au niveau hygiène, au niveau qualité de l'air. L'éclairage, c'était fait avec des creusets, avec un peu d'huile, avec une mèche dedans. Bon, c'était vraiment très artisanal, très rustique et très difficile pour ceux qui s'y abritaient.
Vous expliquez que les entrées étaient sécurisées par deux principes, la dissimulation évidemment, mais aussi l'étroitesse des trappes d'accès.
Tout à fait, oui. Des trappes d'accès où on passe, où je passe pratique à peine, et qui étaient faites au gabarit d'un petit Vietnamien. Donc clairement, un certain nombre d'Américains ne pouvaient tout simplement pas rentrer dans les tunnels ni suivre les Vietnamiens qui s'échappaient. Et avec mon frère, c'est le seul endroit où nous n'avons pas réussi à rentrer dans certains tunnels parce que notre gabarit nous l'interdisait tout simplement.
Et d'ailleurs, il y avait des équipes de soldats qui étaient justement sélectionnés pour leur petite taille, pour précisément essayer de rentrer dans ces tunnels.
C'est à partir de 1966 à peu près que les Américains ont réalisé qu'il y avait des réseaux de tunnels sous leurs pieds et que ces tunnels avaient un avantage stratégique pour les Vietnamiens. Et donc, ils ont essayé de mettre au point des méthodes de neutralisation des tunnels. Et comme pour neutraliser des tunnels et trouver, récupérer l'information, les armes qui étaient dedans, la seule façon c'est de y aller, à ce moment-là ils ont développé des équipes de rats de tunnels avec des combattants sélectionnés d'abord pour leur sang-froid, voire des têtes brûlées, et surtout pour leur très petite taille. Donc souvent des Sud-Américains, des gens qui avaient des très petits gabarits et qui étaient capables de s'engager dans ces tunnels. Alors après, ils avaient leur méthode de combat qui était très particulière. Dès qu'ils étaient partis sous terre, il n'y avait plus aucun contrôle sur eux. Et donc, ça donnait lieu à pas mal de légendes ou de récits assez impressionnants.
Ça, c'est le premier temps des interventions, effectivement, déloger directement, tuer les Vietcong qui se cachaient dans ces tunnels. Mais quand on va se rendre compte de l'ampleur, en réalité, de ce phénomène des tunnels, on va choisir une méthode, disons, un peu plus massive, c'est-à-dire que l'armée américaine va tout simplement bombarder avec des B-52.
Elle agit en trois temps, défoliant pour enlever le couvert végétal. Ils ont rasé et passé à la charrue romaine des hectares de forêt pour arracher les trappes, ouvrir les souterrains, arracher les souches pour repérer les entrées de souterrains. Et puis à la fin, je veux dire, des bombardements massifs, des tapis de bombes qui ont fini dans les années 70 par rendre complètement inopérant le réseau de tunnels. Mais c'était trop tard.
Vous connaissiez l'importance de ces tunnels dans cette guerre du Vietnam, Jean-Pierre Perrin? Oui. Évidemment, on en connaît l'existence, mais visiblement, ça a quand même été un élément décisif, on pourra peut-être y revenir, mais peut-être que d'une certaine manière, la guerre s'est perdue là. du côté des
États-Unis. Ça a surtout permis, comme ailleurs, hein, de tenir suffisamment longtemps devant les Américains pour que leur situation, j'allais dire politique, sur la scène internationale, devienne intenable et les oblige finalement à quitter le Vietnam.
Oui, parce que finalement, vous disiez 1966, c'est déjà très tard en réalité.
Oui, qu'ils découvrent. Ils avaient même installé des bases, ils avaient même installé leurs bases sur des réseaux de tunnels et comprenaient pas comment il y avait des sabotages dans leurs propres bases alors que les Vietcong sortaient dans la base, quoi.
Jean-Pierre Perrin.
Oui, puis on peut se servir des tunnels aussi pour apporter des explosifs.
Tout à fait, ouais.
Quand les tunnels deviennent inutilisables, en réalité, il est trop tard. L'enlisement est déjà là et pour les États-Unis, c'est terminé.
Oui, la guerre est finie pour eux en 1970.
Donc, pour vous, Jérôme Triolet, quel est l'avantage stratégique apporté par ces tunnels en particulier? Est-ce que vous diriez que sans ces tunnels, c'est peut-être une question un peu naïve, mais la guerre aurait été différente?
Certainement, oui. Ça, c'est absolument évident au Vietnam. C'est probablement évident ailleurs aussi. Mais au Vietnam, c'est profondément marqué, à tel point que des armées, par exemple, qui vivent dans d'autres pays, viennent étudier le phénomène pour voir dans quelle mesure elles pourraient développer le même type de résistance dans leur jungle. Je pense à l'armée brésilienne, par exemple, qui a fait des missions au Vietnam pour examiner un peu la façon de faire.
Et racontez-nous peut-être aussi, Jérôme Triolet, comment est-ce qu'on vivait dans ces souterrains? Parce que, en réalité, les Vietcong pouvaient y passer plusieurs jours. Alors, il y avait effectivement ces parties qui étaient quasiment à la surface et où donc finalement on ne restait que très peu de temps, mais dans les parties inférieures, on pouvait rester plusieurs jours en réalité.
Oui, en cas d'attaque, à partir du moment où la forêt en surface était soumise à une attaque américaine, les Vietnamiens pouvaient rester plusieurs jours sous terre, mais alors, dans certains cas, c'était des jours même allongés au ras du sol dans un couloir pour réussir à trouver un peu d'air frais et continuer à respirer. Donc ça prenait parfois des proportions assez impressionnantes, et bien sûrement même qu'ils sont morts dans leur tunnel. Par contre, effectivement, les besoins se faisaient dans des pots qu'on enterrait dans le sol, la nourriture était rare, la cuisine se faisait dans des micro-cuisine avec des tuyaux d'aération qui dispersaient la chaleur et les fumées dans la jungle pour pas être repérés. Mais c'était plus de la survie. Clairement, les souterrains sont adaptés à la survie, j'allais dire, relativement ponctuelle à une opération de type raid ou razzia. Donc ça correspondait très bien. Les Américains pouvaient pas rester longtemps dans la forêt. On les laissait passer, on s'abritait et on attendait que l'orage passe. C'est exactement ce qu'on faisait ailleurs.
En gros, ce qu'on comprend très bien, c'est que c'est aussi une stratégie qui permet de garder un territoire. C'est-à-dire que si vous cramez le village, tout ce qui reste du village, et que vous êtes en capacité de rester dessous une fois que l'ennemi est parti, c'est une évidence. Sauf que c'est absolument central. C'est un point stratégique central. Ça vous permet de garder le contrôle du territoire en question.
Tout à fait. C'est l'ancrage dans la terre. Oui.
C'était le principe adopté par les paysans chinois. C'est la raison pour laquelle ils avaient déployé cette stratégie. Jean-Pierre Perrin.
Oui, tout à fait. Oui. Oui. Alors, chaque guerre, quand même, a des techniques de tunnels différentes. Quand même, évidemment, ce qui s'est passé au Vietnam est très différent de la situation de l'État islamique à Mossoul ou de la rébellion syrienne. Là, pour en revenir au tunnel, il se servait d'une conduite déjà existante. Peut-être une conduite construite par Bouygues, par exemple. J'en sais rien. Mais vous voyez,
c'est ce qu'on retrouve sous les villes modernes et ce qu'on retrouve sous Gaza aussi. Hein, c'est qu'il est très facile et très tentant d'aménager un réseau souterrain à partir des caves ou des installations souterraines existantes, en les reliant, en perforant une canalisation pour s'en servir de couloir, comme vous le décrivez. On n'est pas toujours obligé de tout creuser ex nihilo. Et sous les villes modernes, il y a des vides souterrains déjà tellement importants qu'il est assez aisé de les récupérer, de les instrumentaliser, de les adapter pour...
C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé en Afghanistan. Au début, ils ont commencé par utiliser les carrés, ces fameux systèmes de captation et d'irrigation, et il y en a absolument partout.
Oui, presque partout. Oui.
Mais ensuite, quand même, dans un second temps, ils ont creusé leur propre réseau.
Oui. Oui, alors le carrés existe depuis des centaines d'années, hein, simplement. Il y avait deux phénomènes. La guerre a permis un nouvel entretien des carrés, et en même temps, un certain nombre de carrés n'ont plus été entretenus à cause de la guerre et sont aujourd'hui perdus. Donc on ne peut plus les utiliser parce que si vous n'avez pas un entretien annuel, en général c'est tout le village qui une fois par an va s'occuper du carrés. Et donc pendant la guerre, un certain nombre de carrés ont disparu parce que justement ils n'étaient plus entretenus, alors que d'autres évidemment ont servi au Mujahideen pour se protéger des soviétiques.
Oui, mais à Tora Bora, les Mujahideen ont bien creusé leur propre tunnel.
Oui, bien sûr. Alors ce ne sont pas des carrés aussi.
Ce ne sont pas des carrés, absolument. Tout à fait, c'est autre chose. Jérôme Triolet, si on fait une perspective un peu historique, on imagine évidemment que ces tunnels, ils existent depuis toujours, c'est-à-dire depuis que la guerre existe d'une certaine manière. Le souterrain est là et est un des outils. Mais quelles sont les premières traces que l'on a de l'existence de leur utilisation?
Alors, l'utilisation de tunnels tels que ceux que je décris dans l'ouest de la France, ou en allant jusqu'au Vietnam, ou même certains tunnels afghans, dans l'esprit, les premières traces qu'on a, c'est 8e ou 9e siècle, en Cappadoce notamment, où on a développé ce qu'on appelle aujourd'hui des villes souterraines, qui sont été des villages fortifiés souterrains, qui sont l'expression, sous une autre forme, du même phénomène.
Donc la partie orientale de l'Empire byzantin,
tout à fait,
qui
oui.
à l'époque
était soumise aux pressions arabes, et donc l'armée byzantine, qui était assez lourde, n'avait pas les moyens de réagir avec la même souplesse que les razzias arabes sur l'Orient byzantin. Donc il y a eu la mise en place d'un système organisé de défense du territoire avec ces villes souterraines qui permettaient aux paysans avec leurs réserves de s'abriter. Là encore, le temps que l'orage passe et le temps que l'armée byzantine régulière manœuvre pour réussir à contrer la razzia et à mettre en difficulté les arabes qui de toute façon ne pouvaient pas rester sur le terrain longtemps.
Ça perpère encore, non?
Oui, donc ce sont des cavaliers, effectivement. Et donc, face à des cavaliers, l'abri souterrain est quand même extrêmement efficace. Le problème de la cavalerie dans ce genre de pays, c'est qu'elle doit en permanence avoir du fourrage pour alimenter les chevaux. Je ne parle même pas d'alimentation des cavaliers. Donc, elle est condamnée à passer, finalement, et à ne pas rester. Hein, et donc, on attend effectivement, comme vous l'avez dit, que l'orage passe et ensuite on ressort des galeries.
Mais j'irai plus loin, je dirais qu'au Vietnam, c'est aussi des unités de cavalerie qui rentraient dans la... Même si elles étaient mécanisées ou sur hélicoptère, c'était des unités qui passaient, qui ne pouvaient pas rester. En Afghanistan, les soviétiques, à savoir, ne pouvaient pas rester longtemps. Ils n'ont pu rester 4 heures quand ils ont conquis la zone. Donc vraiment, on reste toujours sur l'idée de laisser passer l'orage. On ne peut pas se maintenir dans un souterrain, dans une zone qui est fermement conquise et définitivement conquise. C'est comme un château fort, ça finit par tomber.
Il reste une interrogation sur Mossoul, par exemple. C'est-à-dire, on a vu avec les combats de ces derniers mois, la profusion de tunnels qu'il y avait dans la ville. Tous les combattants en parlent, les journalistes, les humanitaires. Alors, quelles techniques ont-ils utilisées? Parce que finalement, ils les ont fait quand même relativement vite. Qui les a inspirés? Avaient-ils des ingénieurs avec eux? Est-ce que c'était les anciens ingénieurs de Saddam Hussein? Donc, on a un certain nombre de questions auxquelles on ne sait pas tout à fait répondre.
On a une idée.
Parce que finalement, ils sont sophistiqués, ces tunnels.
Comment savoir faire ces 3000?
Ils ont prévu les lignes d'attaque et hop, ils sont situés donc à des points suffisamment stratégiques pour pouvoir revenir dans le dos de leurs ennemis.
Alors, clairement, le Moyen-Orient a une réelle expérience aujourd'hui du creusement de tunnels dans l'action militaire. On l'a vu avec le Hezbollah en 2006. Et clairement, il y a eu des appels, je ne me souviens plus de qui, mais pour Daesh, à creuser des tunnels dans l'esprit de ce que faisaient les Vietnamiens. De la même façon que le Hezbollah revendique l'héritage vietnamien musée à Em Lita, clairement, les autorités, entre guillemets, de Daesh avaient dit creuser des tunnels en prévision des attaques occidentales, c'est la meilleure façon de nous défendre le plus efficacement possible.
Mais avec une référence directe au Vietnam?
Peut-être plutôt au Hezbollah, mais je ne me souviens pas.
Hezbollah, parce que c'est un peu, c'est l'ennemi quand même.
Oui, oui, je sais, mais la référence était clairement à ce qui a été fait ailleurs pour contrer les armées occidentales.
On va s'intéresser dans quelques instants donc à la bande de Gaza et au Hamas avec Leïla Sora qui est avec nous par téléphone. On va la faire patienter encore un petit instant. Mais sur le Vietnam, qu'est-ce qui reste de ces souterrains, de cette guerre du Vietnam? Qu'est-ce qu'il en reste? Et est-ce que c'est un élément encore important dans la mémoire collective?
Alors, j'allais dire, il n'en reste pas grand-chose d'intact. D'abord, c'est des souterrains qui étaient creusés dans des formations assez fragiles, qui ont beaucoup souffert des bombardements. Il y en a un certain nombre qui ont été, j'allais dire, réaménagés pour faire des lieux touristiques, notamment à Cuxi.
Ah, c'est ça, donc ça existe, parce que vous parliez d'un musée tout à l'heure.
Alors, à Cuxi, au Vietnam, effectivement, on peut visiter des souterrains. Alors, il y en a qui sont ouverts au public, mais qui ont été un peu agrandis pour pas justement que les gens suffoquent. Comme nous disait le guide, les gens suffoquent parce qu'il fait très chaud. C'est très éprouvant de marcher à quatre pattes dans un souterrain extrêmement étroit où il fait 35 degrés et beaucoup d'humidité. Donc, ce sont des lieux touristiques intéressants. Mais au-delà, il reste encore, et on a pu nous visiter, des tunnels en cours de restauration ou des tunnels qui étaient désaffectés avec des chauves-souris, plein de choses intéressantes, des animaux bizarres.
Les mondes souterrains, c'est notre sujet cette semaine dans Culture Monde. Aujourd'hui, de Hanoï à Mossoul, la guerre des tunnels ou quand la guerre se fait souterraine, c'est notre sujet ce matin avec Jean-Pierre Perrin, journaliste, ancien grand reporter au journal Libération, mais également Jérôme Triolet, ingénieur chimiste, oui, mais un spécialiste des tunnels, hein, on l'entend.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va s'intéresser à présent à la bande de Gaza, parce que depuis des années, bien sûr, cette bande de Gaza, elle renferme dans ses entrailles un important réseau de tunnels.
J'ai quitté le nord de Gaza pour venir travailler ici, dans les tunnels de Rafah. J'ai vu dans les journaux que beaucoup de gens y sont morts. Je sais que c'est un travail dangereux, autant du côté égyptien de la bande de Gaza que du côté israélien. Mais sinon, je ne peux pas vivre. Je n'arrive pas à payer mes études. Je suis venu ici pour survivre. J'étais à l'entrée du tunnel le jour avant son effondrement et les décombres sont tombés sur moi. Je m'en suis sorti et j'ai même réussi à sortir un collègue qui était enseveli sous le sable.
Sous un certain nombre de villes, on trouve évidemment des tunnels. Certains traversent la frontière. C'est d'ailleurs évidemment un tunnel transfrontalier qui, en 2006, avait permis de capturer le soldat israélien Gilad Shalit. C'était en juin 2016, capturé par des combattants du Hamas dans un raid transfrontalier via ces tunnels, justement, retenu pendant plus de 5 ans. Il a finalement été libéré en 2011 dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers. On va retrouver une nouvelle invitée, Leïla Sora. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Leïla Sora. Vous êtes chercheuse associée aux séries et puis auteur de cet ouvrage Le Hamas et le Monde qui était paru aux éditions du CNRS en 2015. Première question, Leïla Sora, depuis quand le Hamas utilise ses tunnels dans la bande de Gaza? Ça remonte à quand? Parce qu'il y en avait déjà, je crois, dans les années 80, mais le moment où réellement il va y en avoir de plus en plus, où le phénomène va s'accroître, c'est le blocus économique de 2007.
Oui.
C'est ça.
Oui, tout à fait. C'est 2007. Alors le blocus, à proprement parler, c'est de 2006, suite à la victoire électorale aux élections législatives du Hamas en janvier 2006, que le blocus a été imposé. Le blocus, il a été ensuite renforcé à la suite de la prise de Gaza par la force par le Hamas en juin 2007. Et donc, c'est véritablement à la suite de cette prise de Gaza par la force que le blocus s'est renforcé, et que donc la construction des tunnels s'est systématisée. Donc, à partir de 2007, les tunnels se multiplient et, je dirais, en 2008, il y a à peu près 10 ans, on comptait plus de 1000 tunnels. Après, dès 2009-2010, ils ont continué à se multiplier. Mais c'est vrai que 2007, c'est une date importante qui marque véritablement. Donc, il y a vraiment une corrélation entre renforcement du blocus et construction des tunnels, puisque c'est clairement les tunnels qui permettent à la population de Gaza de bénéficier de l'importation de produits. Hein. 80% des produits sur le marché intérieur gazaoui proviennent des tunnels.
Mais qu'est-ce qu'on fait passer justement dans ces tunnels? Parce que ils servent pas seulement à attaquer les Israéliens, comme je le rappelais avec cette capture du soldat Gilad Shalit. Ça sert, les Israéliens l'ont dit et répété, à transporter des armes. Mais pas seulement, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Leïla Sora, quoi par exemple?
Oui, bah tout à fait. Comme je le disais à l'instant, avant tout des produits de première nécessité pour la population gazaoui, des produits d'usage quotidien, des médicaments. Donc voilà, de produits. Il faut aussi savoir que les tunnels permettent aussi au Hamas de, en fait, c'est le principal canal de commerce pour le Hamas. Donc en fait, d'abord, il faut savoir que grâce aux tunnels, le Hamas peut bénéficier d'une crédibilité supplémentaire puisque les Gazaouis peuvent bénéficier de ces produits. Aussi, les tunnels permettent de créer des emplois. Donc, à la suite du blocus, pas mal de Gazaouis ont perdu leur emploi et la construction de tunnels, comme on l'a entendu dans le reportage, a permis de créer au moins 20 000 emplois. Et bien sûr, et là c'est fondamental, c'est la question donc des taxes. Puisque grâce au commerce des tunnels, le Hamas peut taxer à peu près au moins 20% chaque produit et donc accumuler des revenus grâce à la collecte de ces taxes. Et ces taxes leur permet évidemment au Hamas de subsister et surtout de prendre en charge son gouvernement. Donc, comme vous le savez, en 2007, le Hamas a instauré son propre gouvernement alors que à Ramallah, Salam Fayyad en installait un autre. Et donc, pour financer le salaire de ses fonctionnaires, le Hamas va pouvoir grâce à la collecte de ses taxes, faire fonctionner son gouvernement.
J'entends plusieurs choses sur lesquelles je voudrais qu'on revienne, Leïla Sora. D'abord, ce que rapportent les tunnels, à vous entendre, visiblement, ce sont des sommes très importantes. Je voudrais voir si on arrive à mesurer justement ça. Et puis, l'autre chose que j'entendais aussi, Leïla Sora, dans votre propos et qui me paraît aussi centrale, c'est que, bien sûr, dans ces tunnels, on fait passer des armes, mais pas seulement. On a des produits extrêmement extrêmement variées, des pièces détachées, du matériel informatique, des cadeaux de luxe pour les fêtes de mariage, etc., etc. Et que tout ça, toute cette contrebande, elle permet finalement au Hamas d'avoir une certaine légitimité. C'est-à-dire qu'en contrôlant les tunnels, en ayant finalement la main sur cet afflux de matériel, le Hamas apparaît comme une entité politique capable d'assurer la survie des gens. C'est ça, Leïla Sorat.
Bien sûr, tout à fait. Alors, pour vous donner quelques chiffres, je vous parlais du fonctionnement du gouvernement à l'époque, en 2008-2009. Le fonctionnement du gouvernement, il est évalué à environ 300 millions d'euros par an, et le commerce des tunnels permet au moins de récolter 200 millions. Donc vous voyez que le commerce des tunnels est fondamental pour le fonctionnement de ce gouvernement. Ensuite, comme vous le disiez très justement, tous les produits rentrent à Gaza, donc Gaza est sous blocus, hein, on fait tout passer par les tunnels, y compris, pour la petite anecdote, le lion du zoo de Gaza est passé par les tunnels de l'Égypte. Donc tout passe par les tunnels, et donc, comme vous le disiez très justement, ça accroît la légitimité du Hamas, mais pas que, puisque c'est aussi au prix, enfin, ce commerce s'effectue aussi au prix d'affrontements avec les familles qui traditionnellement disposaient de ce commerce, puisque comme vous l'avez rappelé au début de l'émission, les tunnels ne datent pas de 2007, et à partir de 2007, notamment la branche armée du Hamas, donc les brigades Al-Qassam, vont instaurer un quasi monopole sur les tunnels, et les anciennes familles traditionnellement propriétaires vont devoir payer ensuite un loyer mensuel d'au moins 3 000 $ pour bénéficier de ces tunnels. Donc ces tunnels ne sont pas non plus ne laissent pas non plus le mouvement sans fracture interne, et même entre le mouvement et le gouvernement, puisque les membres du mouvement à Rafah, donc qui sépare donc la bande de Gaza de l'Égypte, c'est eux avant tout qui peuvent bénéficier des taxes et qui ne vont pas forcément les rétribuer, les rétrocéder au gouvernement à Gaza. Donc beaucoup de clivages internes aussi, conséquence de ces tunnels.
Vous restez avec nous, Leïla Sera. Je voudrais faire réagir Jean-Pierre Perrin et Jérôme Triolet. Jean-Pierre Perrin.
Alors on a parlé du côté gazaoui, mais alors du côté égyptien, qui profite des tunnels? Les habitants qui ont des demeures, des propriétés, des maisons juste de l'autre côté de la frontière.
Jérôme Triolet, un mot?
Oui, mais effectivement, c'est devenu à partir de 2007 une véritable industrie, quoi, avec des chefs d'entreprise qui faisaient creuser des tunnels, qui investissaient 10 000, 30 000 dollars pour faire creuser un tunnel, et ensuite le tunnel rapportait ce qu'on gagnait avec la contrebande.
Et il y a des petits tunnels, il y a des moyens tunnels, et il y a des immenses tunnels. Oui, donc,
Et avec une évolution, avec des tunnels de plus en plus profonds au fur et à mesure que, je dirais, les Israéliens font, et les Égyptiens maintenant, font peser la pression sur les tunnels. Donc on s'enfonce peu à peu. En 2003, la profondeur de moyenne, c'était 12-17 mètres. En 2008, c'était passé à 25-30 mètres. Donc, on voit bien ça.
Alors, Jean-Pierre Perrin, justement, évoquait l'Égypte et Leïla Sera. À partir de 2013, justement, l'Égypte va commencer à détruire et condamner un certain nombre de tunnels reliant la péninsule du Sinaï à la bande de Gaza. Pour quelles raisons, Leïla Sera?
Oui, alors peut-être rappeler, bien sûr, comme l'a dit très justement Jean-Pierre Perrin, à qui profitent ces tunnels. C'est vrai que du côté égyptien, il faut savoir que avant 2013, les autorités égyptiennes toléraient partiellement ce commerce des tunnels, en partie aussi pour ne pas s'aliéner les Bédouins du Sinaï, qui trouvaient aussi un intérêt commercial. Voilà, il faut savoir aussi que les autorités égyptiennes ont laissé faire en partie pour ne pas s'aliéner les Bédouins, et que les vagues de destruction, elles précèdent 2013. Hein, elles précèdent le coup de la déposition de Mohamed Morsi le 3 juillet 2013, puisque dès 2012, on a eu plusieurs vagues d'inondation des tunnels. Mais c'est vrai que
les choses vont s'accélérer vraiment à partir de la mi-2013.
Voilà, le 3 juillet 2013, à partir de donc l'arrivée au pouvoir du maréchal Sisi, la quasi-totalité des tunnels sont détruits. Donc là, ça va véritablement porter un coup dur au Hamas, qui ne pourra plus, comme je le disais tout à l'heure, bénéficier de ces taxes, donc issues du commerce des tunnels, et donc ne pourra plus faire fonctionner convenablement son propre gouvernement, qui sera à la déroute. Depuis 2014, la plupart des fonctionnaires du gouvernement de Gaza n'ont pas été payés. Donc c'est en partie ce non-versement des salaires qui explique la guerre de 2014.
Mais alors, il y a évidemment l'effet que vous décrivez sur Gaza, mais il faut aussi comprendre les motivations du côté de l'Égypte, parce que ces mesures, elles sont prises à un moment particulier. particulier. C'est un moment où le président élu, Mohamed Morsi, fait l'objet d'une contestation populaire de plus en plus importante, qui va conduire ensuite à sa chute. Et il y a évidemment une hypothèse qui est assez vraisemblable, qui est celle selon laquelle ces tunnels sont aussi détruits pour éviter finalement qu'il y ait des infiltrations d'agents du Hamas qui seraient venus soutenir les frères musulmans. C'est aussi une des raisons, en tout cas c'est une hypothèse qu'on entend, Leïla Sarah.
Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le discours des autorités égyptiennes, que ce soit avant 2013 ou après 2013. Donc avant 2013, il y aurait une corrélation, une sorte de partenariat entre les frères musulmans et le Hamas qui aurait voulu instaurer une nouvelle zone dans le Sinaï, etc. Donc sortir le Sinaï de la souveraineté égyptienne. Et donc tous ces discours consistaient à dire finalement, c'est par toutes les attaques qu'il y a eu contre notamment des policiers et des militaires dans le Sinaï avant 2013, les autorités égyptiennes vont clairement accuser le Hamas d'être passé par ces tunnels pour mener des attaques conjointement ou de mèche avec les frères musulmans. Donc ça, c'est le discours avant 2013. Et évidemment, après 2013, on a à nouveau ce type de discours. Mais là, évidemment, c'est plus le Hamas et les frères musulmans, mais c'est le Hamas et l'État islamique. Donc le Hamas est accusé de faire sortir par le biais des tunnels des armes. Et donc, régulièrement, les autorités égyptiennes vont publier des images de stocks d'armes qui appartiendraient donc à la province du Sinaï et qui seraient provenus de grâce au Hamas par le biais des tunnels.
Aujourd'hui, le nombre de tunnels a vraiment diminué de façon très significative.
Oui, très significatif, mais après, c'est très difficile déjà de les comptabiliser. On ne peut pas vraiment avoir une estimation claire. En revanche, c'est vrai qu'on continue d'en construire tout le temps, donc il en reste. Il y a eu une vague de destruction très importante, mais de nouveaux tunnels ont été construits après juillet 2013, et ces tunnels continuent de fonctionner. Ouais.
Et puis, ce qu'on arrive à mesurer, en revanche, très bien, c'est la crise sociale et économique. Et on peut évidemment établir une forme de corrélation entre la diminution de ces tunnels et la crise économique et sociale dans Gaza, quand même.
Oui, tout à fait. Je dirais pour deux raisons. Parce que d'abord, la disparition de la quasi-totalité, on va dire, en 2013 de ces tunnels, ont fait perdre au Hamas donc la possibilité de collecter des taxes. Et donc, à partir de là, le Hamas va prendre d'autres dispositions pour générer de l'argent pour payer ses fonctionnaires. Ou en tout cas, de subvenir à ses besoins à Gaza. Et donc, on va clairement trouver le moyen de substitution, c'est clairement les taxes. Donc les taxes, les impôts sur toutes les activités commerciales. Donc ça va générer une contestation intérieure, que ce soit de la part des marchands que du reste de la population, qui va d'ailleurs accuser le Hamas non seulement d'accroître les impôts et donc de faire peser sur la population gazaoui des taxes insupportables, mais aussi de profiter de l'électricité. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une colère importante et des manifestations d'ailleurs en janvier suite à la crise d'électricité. Et cette crise d'électricité à Gaza s'expliquerait aussi par l'utilisation d'électricité de la part du Hamas et de sa branche armée qui vous savez, l'électricité rentre difficilement à Gaza. On a trois moyens de faire rentrer l'électricité à Gaza, par Israël, par l'Égypte et par la propre centrale de Gaza. Mais l'autorité du Hamas est accusée donc d'utiliser l'ensemble de ces carburants aussi d'électricité à des fins militaires. Et donc depuis, 6 mois, 1 an, la colère ne cesse de gronder dans la bande de Gaza.
Merci beaucoup, Leïla Sarah, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, docteur en sciences politiques, chercheur associé aux séries, auteur de cet ouvrage, Le Hamas et le monde, qui était paru aux éditions du CNRS. Merci à nos deux invités ici en plateau, Jérôme Triolet, co-auteur avec Laurent Triolet de La guerre souterraine, Sous terre, on se bat aussi, qui était paru chez Perrin, et Jean-Pierre Perrin lui aussi, mais qui n'est pas votre éditeur. Un grand merci Jean-Pierre. Je rappellerai Le djihad contre le rêve d'Alexandre, ça c'est pour le dernier, mais aussi La mort est ma servante avec l'épisode du tunnel de Homs dont on a parlé.
Merci.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Presque 53 minutes sur France Culture, l'heure de retrouver le monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors il y a une crise des gauches de gouvernement, une crise de la social-démocratie dans toute l'Europe, on en parle très régulièrement à ce micro. Vous entamez ce matin une réflexion justement sur ce sujet par le Parti travailliste britannique, on va commencer par ça.
Oui, grâce à la revue Intello Britannique Prospect qui a la bonne idée de consacrer ce mois-ci un dossier à la crise du Labour. Si Theresa May provoquait des élections anticipées, les instituts de sondage accordent à peine un quart de l'électorat à l'un des plus anciens et des plus puissants partis travaillistes du monde, fondé en 1900. Que s'est-il passé depuis 1951, l'année où les travaillistes réalisèrent le meilleur score de leur histoire en frôlant la majorité absolue dans un système électoral à un seul tour? Et ben, c'est un historien d'Oxford, Ross McKibben, que Prospect demande d'expliquer les causes de ce déclin. Premier constat, la Grande-Bretagne de 1951 était une nation industrielle. 70% des hommes étaient des travailleurs manuels. Et vous aviez 2 millions de mineurs et ils votaient travaillistes en masse, encadrés par de puissants syndicats. Ensuite, les mentalités étaient binaires, héritage des années de guerre. Vous étiez du côté des patrons et de l'encadrement ou bien du côté des ouvriers. Ensuite, l'État jouait un rôle déterminant dans une économie de rationnement. Il contrôlait les prix, le crédit et une partie de la production à travers les nationalisations. Il était garant du plein emploi. Oh, la Grande-Bretagne était encore loin de la prospérité, les salaires étaient très faibles, mais le chômage était pratiquement inconnu. Bref, c'était une économie de type social-démocrate qui favorisait le parti du travail. Et il y avait une autre différence substantielle avec le Royaume-Uni de 2017. En 1951, le pays était presque totalement blanc. Le recensement de 1951 enregistre la présence de 20 000 personnes de couleur. Contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, il y avait pourtant des immigrés à l'époque. Mais ils venaient essentiellement de la pauvre Irlande, ainsi que de la Pologne et des États baltes tombés aux mains des soviétiques. C'était un pays de peuplement anglo-celtique, nous dit notre historien, et la grande majorité des électeurs du Labour tenaient à ce qu'il demeurât ainsi. Enfin, autre différence de taille, le Labour était profondément attaché à l'unité nationale. Alors que les conservateurs se proclamaient unionistes, en réalité, ils étaient profondément anglais. Les travaillistes, eux, veillaient jalousement sur l'unité du Royaume-Uni. Ils fermaient les yeux sur le régime d'apartheid imposé aux catholiques en Irlande du Nord et l'Écosse, de son côté, ne réclamait pas l'autonomie, encore moins l'indépendance. Pour être travailliste, on n'en était pas moins patriote.
Et alors aujourd'hui, Brice, en quoi les changements ayant affecté la société britannique expliquent-ils le déclin du parti travailliste pour vous ?
Aujourd'hui, poursuit toujours notre historien d'Oxford, tous ces éléments qui favorisaient le Labour ont disparu. La Grande-Bretagne n'est plus une économie industrielle, mais une nation de classe moyenne. Les friches industrielles laissent des chômeurs amers. Les usines sont parties en Asie. Ils en veulent au Labour de n'avoir pu l'empêcher, d'autant qu'ils constatent que les nouveaux emplois, qualifiés ou pas dans les services, sont remplis par des immigrés venus par millions et protégés par l'Union européenne. Le niveau de l'immigration a été culturellement perturbant pour la majorité de la population autochtone, écrit Ross McKibben, parce qu'elle y voit un défi à l'idée qu'elle s'est faite de la Grande-Bretagne, comme quoi l'insécurité culturelle n'est pas une spécialité française. Autre chose, dans les années 50, le Labour était le parti de l'État. Les salariés des entreprises nationalisées constituaient un réservoir naturel de suffrages ouvriers. Aujourd'hui, l'État absorbe un pourcentage supérieur de la richesse nationale, mais il ne se mêle plus de produire et un large consensus règne dans le pays sur le fait que c'est une excellente chose. Mais ce retrait pénalise sévèrement le parti travailliste.
Et au cours des années suivantes, est-ce que l'érosion du Labour a été constante ?
Plus ou moins, et c'est ce qui préoccupe notre Ross McKibben. Pourtant, dans les années 60-70, sous les gouvernements travaillistes de Harold Wilson et de James Callaghan, l'État s'est lancé dans une série d'opérations de sauvetage d'industrie et il s'est attiré ainsi la fidélité de salariés qui lui étaient redevables. Mais ces politiques déclenchèrent une vague d'inflation qui ébranla et fractura la société. Pour tenter de la juguler, le gouvernement a tenté de limiter la hausse des salaires et s'est ainsi aliéné les syndicats. Et on se souvient de l'époque fin 78, début 79, où a eu lieu ce qu'on a appelé l'hiver du mécontentement. Le pays croule sous les grèves, même les pompes funèbres refusent d'enterrer les morts. Le Labour subit sa première crise sévère. Thatcher va gagner les élections. Le Labour, atteint par cette sévère défaite, va se radicaliser, s'écartant pour longtemps du pouvoir. Sous la direction de Michael Foot, en 1980, le parti se prononce pour le désarmement nucléaire, la rupture avec l'OTAN, le départ de l'Union européenne. quatre anciens ministres, effarés par cette dérive, s'en vont fonder un nouveau parti, social-démocrate, crise majeure.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut évidemment retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, un site sur lequel on peut bien sûr écouter, réécouter votre chronique, mais aussi Culture Monde et toutes les autres émissions de France Culture. Justement sur France Culture, dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.